Bon après-midi à tous. Je suis jésuite à Paray-le-Monial depuis 4 ans. Avant, j'étais à Marseille. Avant, j'étais au Châtelard. Avant, j'étais 5 ans avec les réfugiés au Burundi. Et avant, 30 ans prêtre ouvrier, dont 25 ans à Toulouse. Je suis originaire du Gers. J'ai grandi près d'Auch. J'ai une famille nombreuse, 10 frères et sœurs, 41 neveux et nièces, 100 petits-neveux et 13 arrière-petits-neveux. J'ai besoin du chant que nous venons de chanter, avancer dans la confiance. C'est le charisme de Saint-Claude. Je crois qu'il est important d'entendre que le Seigneur veut nous faire avancer dans la confiance. Le thème qu'on m'a demandé, re-choisir Dieu. Re-choisir Dieu. Pour moi, jésuite, re-choisir Dieu, c'est me mettre davantage à la suite de Jésus-Christ, qui me voit le Père, dit-il à Philippe. Nous mettre à l'écoute, chemin Israël, Adonai Elokeinu. Nous mettre à l'écoute, c'est aussi se mettre à l'obéissance. Un jour, quand j'étais prêtre ouvrier en Espagne, j'ai participé à une célébration du Jeudi Saint et il y avait l'une des statues qui traversait la ville. C'était un vieillard avec une barbe, et j'ai entendu qu'on disait « El abuelo, el abuelo ». Dieu le Père, c'était le grand-père. Et je ne crois pas que Dieu le Père soit le grand-père. Dieu le Père est le Père, et le Fils, c'est notre frère, c'est celui qui nous accueille. Nous avons à nous mettre à la suite du Christ. Philippe, qui me voit, voit le Père. Rechoisir Dieu, j'ai essayé de me représenter différentes situations pour avoir besoin de rechoisir Dieu. Rechoisir Dieu, c'est déjà signifier qu'on s'adresse à des chrétiens qui l'ont déjà accueilli. Rechoisir Dieu, c'est peut-être qu'on est dans les brumes, dans les difficultés. Dans la nuit, rechoisir Dieu, quand est-ce qu'on peut se trouver dans cette situation? Pour Ignace, on appelle ça la désolation. Quand on est désolé, quand on est seul, quand on ne sait pas que Jésus-Christ est notre roc, alors c'est le moment de rechoisir Dieu. Il peut y avoir plusieurs motifs. Ça peut être par tiédeur, ou ça peut être comme un temps d'épreuve, comme Job, ou ça peut être pour bien découvrir que tout seul, je ne peux rien. Ce n'est pas à mon pouvoir. Seul, je ne peux rien. Trois motifs de désolation. La tiédeur. La tiédeur, peut-être que nous pouvons aller voir dans Apocalypse, 3:20, l'épître à Laodicée. Que n'es-tu chaud ou froid? Tu es tiède. Tu es tiède. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui. Je ferai chez lui ma demeure. Lui avec moi, moi avec lui. Peut-être que nous avons besoin de réveiller notre tiédeur, en accueillant celui qui est à la porte et qui attend notre bon vouloir pour ouvrir cette porte. Ça peut être aussi un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve. Par exemple, un temps de deuil. Le deuil, il faut l'accepter. il ne faut pas le dénier, il ne faut pas rester dans le déni. Et après peut venir un temps de révolte, de colère. C'est seulement après, en donnant du temps au temps, que l'on peut se trouver soit dans la dépression, soit dans le marchandage, être en train de jouer au maquignon avec le Seigneur. Dans la Bible, vous vous souvenez, s'il y a 50 justes, s'il y a 40 justes, s'il y a 30 justes, s'il y a 20 justes, s'il y a 10 justes, on peut chercher à négocier avec le Seigneur. Tout cela pour arriver à accepter la situation de deuil qui s'est imposée à nous. Alors, nous pouvons nous lancer dans ce don du pardon dont parlait Monseigneur ce matin. Et si nous pouvons accueillir ce don du pardon qui nous dépasse, un pardon difficile, alors nous pouvons rentrer dans la louange. Et par la louange, nous pouvons sortir de ce temps d'épreuve. Ou bien, la troisième piste de désolation, c'est pour découvrir que nous ne pouvons rien tout seuls. Pour le pardon, c'est nécessaire. Il y a des situations où le Christ lui-même à la croix, quand on le cloue, il ne dit pas « je vous pardonne », il s'adresse au Père en disant « Père, pardonne-leur ». Peut-être nous pouvons sentir que ça peut nous aider à dépasser cette situation, de nous sentir loin du Christ, alors que nous nous mettons en route pour le choisir à nouveau. Pour le choisir, j'interviewais et plusieurs m'ont répondu, re-choisir Dieu, mais c'est le travail de tous les matins, comme re-choisir sa femme. Re-choisir Dieu, c'est une décision à prendre tous les jours. Re-choisir Dieu, ça doit être fréquent chez nous pour rester fidèle à ce Seigneur. Re-choisir Dieu, un des chemins possibles, c'est de revenir à la prière, se mettre à l'écoute de Dieu, se mettre à l'écoute de soi, se mettre à l'écoute des autres, écouter ce qui se passe. Écouter ce que dit notre corps, écouter ce que nous avons à entendre. Et je vous propose de vous présenter un texte à prier et qu'ensuite il y ait quelques minutes de silence pour voir comment vous voulez accueillir ce texte et cet appel de Dieu. Le texte que j'ai choisi se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 22, les versets 20 à 35. Je le lis. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Ces gens ne sont-ils pas venus t'appeler ? Lève-toi, pars avec eux, mais tu ne feras que ce que je te dirai. » Au matin, Balaam se leva, sella son ânesse et partit avec les princes de Moab. Son départ excita la colère du Seigneur, et l'ange du Seigneur se posta sur la route pour lui barrer le passage. Lui montait son ânesse, ses deux garçons l'accompagnaient. Or, l'ânesse vit l'ange du Seigneur posté sur la route, son épée nue à la main. Elle s'écarta de la route et passa à travers champ. Mais Balaam la battit pour la ramener sur la route. L'ange du Seigneur se posta alors dans un chemin creux, au milieu des vignes, avec un mur à droite et un mur à gauche. L'ânesse vit l'ange du Seigneur et rasa le mur, y frottant le pied de Balaam. Et Balaam la battit encore une fois. L'ange du Seigneur changea de place et vint se poster en un passage resserré où il n'y avait pas d'espace pour passer, ni à droite ni à gauche. Quand l'ânesse vit l'ange du Seigneur, elle se coucha sous Balaam. Balaam se mit en colère et il la battit à coups de bâton. Alors, le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait que tu m'aies battu ainsi par trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est que tu t'es moqué de moi. Si j'avais eu une épée à la main, je t'aurais déjà tué. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis ton jeune âge ? En cela, ai-je manqué à te servir ?» Il répondit, « Non. » Alors le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange du Seigneur posté sur la route, son épée nue à la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Et l'ange du Seigneur lui dit, « Pourquoi as-tu battu ainsi ton ânesse par trois fois ? C'est moi qui étais venu te barrer le passage, car moi présent, la route n'aboutit pas. L'ânesse m'a vu, et devant moi elle s'est détournée par trois fois. Bien t'en as pris qu'elle se soit détournée, car je t'aurais déjà tué. Elle, je l'aurais laissée en vie. » Balaam répondit à l'ange du Seigneur, « J'ai péché, c'est que j'ignorais que tu étais posté sur mon passage. Et maintenant, si cela te déplaît, je m'en retourne. » L'ange du Seigneur répondit à Balaam, « Va avec ces hommes. Seulement, ne dis rien de plus que ce que je te ferai dire. » Balaam s'en alla donc avec les princes envoyés par Balak. Plusieurs modes de prière avec ce texte. Chez saint Ignace, il y a surtout deux modes de prière, deux modes d'oraison, la méditation et la contemplation. Si vous choisissez de prier ce texte à travers la méditation, vous vous demanderez qu'est-ce que vous avez dans votre mémoire pour souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ensuite, avec votre intelligence. Ensuite, vous mettrez à impliquer votre désir, votre volonté dans cette affaire, pour qu'à chaque point, vous puissiez réfléchir en vous-même et vous demander ce que ce texte a à vous dire. Ce texte, il est difficile, si vous voulez, le comprendre en lisant tout le livre des Nombres, parce qu'on a l'impression que Dieu se contredit. Mais si vous acceptez de prendre simplement ce passage, Nombres 22, les versets 20 à 35, vous pourrez en tirer du fruit. Méditation, ça peut être retenir ce qu'il y a eu au début et à la fin. Qu'est-ce qu'il nous dit au début ? Il nous dit « Tu feras ce que je te ferai faire. » Est-ce que c'est vrai que nous sommes prêts à obéir selon ce que l'Esprit nous dicte ? Et à la fin, tu diras ce que je te dirai de dire. Est-ce que c'est vrai que nous avons le courage de dire ce que l'Esprit nous dit de dire, de transmettre, quelles que soient les conséquences ? Si nous savons que c'est vrai, faire ce qu'il y a à faire, dire ce qu'il y a à dire. Voilà déjà de quoi méditer. Mais vous pouvez prendre ce texte aussi sous forme de contemplation. Dans la contemplation, saint Ignace nous dit, comme dans toute prière, commencer par la prière préparatoire, habituelle, demander qu'en nous tout soit gratuit, que je n'aille pas mettre la main sur Dieu, que j'accepte qu'il me bouge, qu'il me fasse évoluer entre la grâce que je vais demander et le colloque, ce que je dirai à la fin de la prière. Donc dans la contemplation, commencez par demander la grâce d'y être pour une rencontre d'amour avec celui qui m'a aimé le premier, et relire le texte en voyant les personnages, en entendant ce qu'ils disent et en regardant ce qu'ils font. Voir, c'est voir le panoramique, l'ensemble de la scène. Regarder, c'est faire un zoom pour être plus précis sur tel moment où, par exemple, Balaam, qui est le prophète d'à côté, embauché par Israël, Balaam accepte d'avoir ses yeux qui s'ouvrent. Alors, ses yeux s'ouvrir. Ses yeux s'ouvrir, c'est la même chose qu'on rencontre pour les disciples d'Emmaüs. Les yeux s'ouvrir. Et ils comprirent, notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous expliquait les Écritures. Pour demander au Seigneur qu'il vienne toucher notre cœur, qu'il vienne nous mettre son cœur dans notre cœur, qu'il vienne nous conduire à travers ce que nous avons à écouter. Ici, déjà, faire ce qu'il y a à faire, dire ce qu'il y a à dire. Et combien d'omissions nous pouvons reconnaître, combien d'incapacité à oser faire ce qu'il y a à faire et dire ce qu'il y a à dire. Je vous propose une autre manière de faire cette contemplation, de vous demander dans votre vie si votre ânesse, ce n'est pas votre corps. Comment est-ce que le corps vous alerte? Comment il vous dit que ça ne va pas, qu'il faut corriger certaines choses, qu'il faut peut-être aller dormir davantage? Comment est-ce que votre corps est capable de vous ouvrir les yeux? Vous ouvrir les yeux, si vous êtes loin de Dieu, s'il s'agit de rechoisir Dieu, vous ouvrir les yeux sur ce phénomène de distance. Ce n'est pas Dieu qui a pris de la distance, c'est nous qui prenons de la distance. Il n'a pas dit que nous coulerions, il a dit « allons de l'autre bord, prends confiance ». Donc je vous propose de prendre 5 minutes de prière sur ce thème, soit sous forme de méditation, soit sous forme de contemplation, mais que dans ce week-end, pour le cœur du Christ, vous puissiez écouter ce qu'il a à vous dire à travers votre cœur, à travers votre corps, à travers votre esprit, pour pouvoir résister dans ce combat spirituel. Merci Seigneur pour ce silence. À Thésée, on ose faire 10 minutes de silence. Ici, 5 minutes, ça paraissait déjà énorme. Merci Seigneur. Ignace nous donne, dans la recherche de Dieu, quelques règles de discernement, des règles différentes selon que l'on est en train de se convertir ou selon que on veut tout faire pour suivre Dieu de plus près. Dans les règles qu'il nous donne, si je veux me convertir, et souvent j'ai toujours à revenir à cela, est-ce que vraiment je veux me convertir? La première règle à retenir, c'est en cas d'attaque, réagir tout de suite. En latin, on nous apprenait « agere contra », agir contre. C'est-à-dire, si le malin est en train de s'introduire par la porte, ben, ne pas lui laisser mettre le pied dans la porte. S'il passe par la fenêtre, tâchez de fermer les fenêtres. Et s'il vient soulever une tuile, empêchez qu'il soulève la tuile. Mais réagir tout de suite, et nous pouvons dire, puisque nous sommes baptisés, que nous avons la force de l'Esprit et Jésus en nous, nous pouvons dire, au nom de Jésus-Christ, va-t'en. Que dans le combat spirituel, nous n'attendions pas qu'il soit déjà bien installé chez nous. Et puis, la deuxième règle aussi, pour des débutants, c'est oser parler, ne pas garder un démon muet. Ignace nous dit, c'est un amoureux frivole qui veut pouvoir séduire la femme d'un bon mari, qui lui dit de ne rien dire, ne pas rester dans ce démon muet, trouver quelqu'un dès que nous sommes troublés. Le signe de l'attaque du malin, c'est qu'il va nous enlever la paix et la joie que le Seigneur veut nous mettre. Dès que nous sommes troublés, dès que nous sommes dans la tristesse, bip bip, attention, on peut repérer que l'attaque a commencé. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin dans le Seigneur, il y a d'autres règles. Parce qu'à ce moment-là, le malin, il n'agit pas de manière grossière. Il agit de manière subtile. Si on veut aller vers le mieux, il va nous souhaiter faire mieux, mieux, mieux. Il va nous faire faire un concours. Souvent, je dis à Paray-le-Monial, il ne s'agit pas d'aller simplement au faux plafond. On est capable d'inventer un barreau d'échelle au-dessus du faux plafond. Évidemment, ce barreau, il est virtuel, et il est tellement virtuel qu'on n'a aucune chance d'y arriver. Et par là, il nous déprime. Eh bien, voir qu'est-ce que nous avons choisi de faire et qui est au-dessus de nos forces, parce que ça va nous déprimer. C'est important parce que quand nous mettons à la suite du Christ, nous savons que nous devons essayer non pas simplement de vivre la loi, et Saint-Claude la Colombière, il voulait vivre les plus petits détails des règles des jésuites. Non seulement ça, mais encore, on voudrait suivre le Christ et on pourrait prendre des décisions dangereuses pour suivre le Christ. Suivre le Christ, c'est être sûr qu'on va souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Et j'ai un jésuite des années 1885 qui, dans un livre où il compare l'imitation de Jésus-Christ et les exercices spirituels, dans les deux cas, on demande de vivre cette humilité avec le Christ. Il nous met en garde avec une note en bas de la page. Au point où il est rendu, le retraitant se souviendra qu'il arrive que Dieu donne ce qu'on lui demande. Nous ne sommes pas obligés de demander de souffrir plus que nos forces. Monseigneur Coligny, archevêque de Toulouse, venait commenter ses règles sur l'humilité en disant « Mes frères, mes sœurs, n'en rajoutez pas. Demandez au Seigneur qui vous donne la force de tenir les croix qui vous arrivent. N'en rajoutez pas. Soyez sages. » Et Ignace dit « À ceux qui s'endorment, il faut les réveiller. Mais à ceux qui veulent courir trop vite, il faut les calmer. » Donc c'est bon de pouvoir vivre cool. C'est bon en Espagne, on dit « No te preocupes ». Ne pas s'inquiéter. La grande Thérèse nous le rappelle. Ne pas s'inquiéter. C'est important de pouvoir garder ces règles. C'est important pour ne pas nous laisser entraîner là où seul le malin veut nous entraîner. Je pense que tous vous connaissez le passage de saint Paul dans les Éphésiens. Les Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 à 20, il nous met en garde. Et la Bible de Jérusalem a pris le temps d'écrire le titre « Le combat spirituel ». Ce n'est pas contre des principautés, puissances, dominations, mais contre les princes de ce monde que nous avons à lutter. Et pour cela, saint Paul nous invite à avoir le casque du salut, le bouclier, la ceinture de la vérité, l'épée de la parole. Eh bien, Brunor, un caricaturiste qui a fait le dessin, il a rajouté quelque chose qui est intéressant. Il a rajouté ce fantassin prêt au combat, un sac à dos d'ado. Un sac à dos d'ado. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans mon sac à dos d'ado? Qu'est-ce que j'ai fait pour surcharger ce que j'ai apporté? Pourquoi est-ce que j'ai pris le temps de me mettre des handicaps? Et souvent notre corps, il a été un bon lieu d'alerte pour reconnaître nos handicaps. Si vous allez faire le chemin de Saint-Jacques, ne prenez pas un sac trop lourd. On dit, si possible, pas plus de 12 à 13% de votre poids. Pour moi, ça donne 12 kilos. S'il faut rajouter 2 kilos de nourriture parce qu'on ne veut pas s'arrêter, ça fait déjà lourd. Si bien que les pèlerins de Saint-Jacques, quand ils arrivent au pied Saint-Jean-Pied-de-Port, la dernière poste française, ils renvoient à la maison des kilos en trop. Deux changes suffit, c'est pas la peine d'un troisième. Qu'est-ce qu'on a pris en trop? Comment est-ce qu'on peut s'alléger? Et un jour, j'étais avec, pour les JMJ en Allemagne, avec des jeunes, et on a eu une homélie d'un franciscain. Le franciscain a dit « Ouh, j'ai regardé vos sacs à dos. Ils sont bien pleins, vos sacs à dos. » Alors, les jésuites vous disent « Magis, plus, plus, plus. » Et moi, je vous dis « Allégez-vous, allégez-vous. » Donc, nous pouvons regarder qu'est-ce que nous pouvons alléger en allégeant le sac à dos d'ado. Parce que souvent, nous prenons un programme trop lourd pour ce que nous avons à vivre. Et la manière de voir si c'est trop lourd, c'est de voir, de bien contrôler, que la paix et la joie sont possibles. Le Seigneur, quand il nous invite aux béatitudes, les béatitudes, ça veut dire « heureux êtes-vous ». C'est important de pouvoir sentir à quel point le Seigneur nous donne d'être heureux. Et si nous perdons ce bonheur, tâchons de regarder s'il n'y a pas de notre part un risque d'avoir trop alourdi le sac à dos d'ado. Donc, et le corps le voit rapidement. J'ai l'occasion de donner des retraites dont l'intitulé est « Jésus délivre, libère et guérit ». En cela, je ne fais que reprendre un vocabulaire courant de l'Église. Si vous vous souvenez des litanies, délivre-nous, libère-nous, guéris-nous. Et ces demandes sont fortes pour que nous osions venir à la demande. Donc, re-choisir Dieu, c'est accepter de lui demander. Tous les matins ou tous les soirs, mais au moins une fois par jour, prendre le temps de lui demander. Dans le Notre Père, cette demande. Demander d'être délivré, de quoi avons-nous peut-être à être délivrés? Délivrés des forces de mort qui nous ont atteints, peut-être à travers notre famille, peut-être à travers notre éducation, peut-être à travers des pactes inconsidérés. On croit que c'est le Seigneur qui nous a soufflé ça. Mais c'était de notre volonté propre. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir à être délivré? Pour être délivré, eh bien, de manière très classique, comme on le fait pour le baptême, comme on le fait pour la nuit pascale, on prend le temps de renoncer. Renoncer à Satan sous toutes ses formes. Il y a 14 manières de parler de lui dans le Nouveau Testament. Renoncer à Satan et choisir la vie. C'est la vie que nous voulons accueillir, la vie du Christ, que le Christ soit vivant en nous. Délivrance, en vocabulaire d'atelier, c'est pouvoir déposer toutes les tuiles qu'on a reçues quand on passait sur le trottoir. Tout ce qui n'est pas de nous, tout ce qui est lourd à porter. Il y en a une famille de suicidaires. Il y en a, leur mère leur a dit, tu sais, j'ai tout fait pour te faire sauter. Il y en a, le père leur a dit, de toute façon, tu ne feras jamais rien. Toutes ces sortes de malédictions diverses, même si les parents ne se sont pas rendus compte. Ce n'est pas juger les parents que de reconnaître qu'il y a des choses qui nous ont fait mal. Ça peut être passé aussi par l'éducation, les dortoirs. Chacun sait ce qui peut le coincer. Et prendre le temps de pouvoir déposer ça en y renonçant et en choisissant de l'autre côté la vie. Après, je parlerai de libération. Libération, c'est ma manière à moi de me sentir complice ou d'être complice. La libération, on a tous besoin, c'est pratiquement ce qu'on vit dans une bonne confession. Le Seigneur nous libère. Et là, de même, on peut renoncer et choisir. Enfin, j'appelle guérir. Guérir ce qui est nécessaire pour le combat quotidien. Une fois que le président de la prière a prié pour envoyer ses forces de mort au pied de la croix du Christ, il est bon de pouvoir se former et demander au Seigneur qu'il continue ce qui nous a lavé. Cette image de l'Apocalypse rendu blanc dans le sang de l'agneau. Incroyablement vrai, à vivre ici dans une église de Cluny, rendu blanc par le sang de l'agneau. Eh bien, pour la guérison, demandez au Seigneur qu'il enlève de ma mémoire ce qui peut encore rester comme tache, qui vient me coincer, me réveiller, ou qui m'occupe lors d'insomnie, ou qui me gêne dans mes relations. Demandez qu'il vienne guérir mon corps avec tout ce qui reste pour pouvoir être un serviteur du Seigneur. Demandez qu'il guérisse mon cœur pour que je puisse aimer librement, m'aimer moi-même, aimer les autres. Aimer son prochain comme soi-même. Si on n'a pas pris le temps de s'aimer soi-même, on ne va pas aimer le prochain de manière très forte. Donc, apprendre à s'aimer comme un cadeau de Dieu, la guérison. Guérison de l'esprit pour arrêter le pessimisme et voir la beauté du plan de Dieu, voir tout ce qu'il fait pour nous. Comprendre sous quelle forme il nous conduit. Délivrance, libération, guérison sont des prières possibles. Et ça peut aider dans le chemin pour rechoisir Dieu, pour accueillir de se désencombrer de tout ce qui n'est pas lui, pour accueillir qu'avec sa force, nous pouvons demander d'accueillir en nous sa paix et sa joie. J'ai une remarque à faire qui me conduit vers un autre texte d'Écriture. Dès que nous perdons la paix et la joie, dès que nous découvrons que nous avons à rechoisir Dieu, peut-être ne pas hésiter à faire le chemin pour revenir jusqu'au moment où nous étions dans la paix et la joie. Le texte est le suivant. C'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, les versets 1 à 7. Je vous lis le texte. Les frères prophètes dirent à Élisée, « Voici que l'endroit où nous habitons, près de toi, est trop étroit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous ferons là une demeure. » Il répondit, « Allez. » L'un d'eux dit, consens à accompagner tes serviteurs. Et il répondit, j'irai. Il partit avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent le bois. Or, comme l'un d'eux abattait sa poutre, le fer tomba dans l'eau et il s'écria, hélas, mon Seigneur! Et encore, il était emprunté. Mais l'homme de Dieu lui demanda, où est-il tombé? Et l'autre lui montra la place. Alors, il cassa un bout de bois, le jeta à cet endroit et il fit flotter le fer. Il dit, retire-le. Et l'homme étendit la main et le prit. Ce texte incroyable de quelque chose que la physique normale ne peut pas supporter. Comment est-ce qu'une hache pourrait remonter à la surface alors qu'elle est au fond de l'eau? Ce texte nous indique, osez, osez, même si on vous explique que ce n'est pas possible, osez, osez revenir. Revenir où? Revenir à l'endroit où vous étiez dans la paix, pour comprendre mieux le chemin qui a fait que la paix, elle vous a quitté. Comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que la paix disparaisse et que la tristesse vienne et que le sombre vienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne pas hésiter à pouvoir aller regarder ce texte et vous demander ce qui se passe en vous. Seigneur, viens nous accueillir. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, dans tes blessures, cache-moi. Que nous soyons prêts à réentendre ce passage où le Seigneur nous a prévenus. Passage autour du refus de l'esprit, qui est pas loin du passage que Mgr Rivière commentait ce matin. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a d'abord haï. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que moi je vous ai choisi, vous tirant hors du monde, le monde, lui, se prend à vous haïr. Souvenez-vous de la parole que je vous ai laissée. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, car s'ils m'ont poursuivi, ils sauront aussi vous poursuivre. Mais s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ils vous traiteront de la sorte en raison de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a donné mission. Et si je n'étais pas venu, et si je n'avais pas parlé, ils seraient sans péché. Comprendre combien ce passage de Jean nous montre combien nous avons à être bien guidés, bien guidés. Ça nous fait comprendre des paroles de Newman, dont le procès avance, cardinal Newman. Je crains une église qui n'est pas persécutée, simplement parce qu'elle veut rester puissante. Je crains une église où un croyant qui ne risque pas la persécution pour rester fidèle à l'Évangile. Va crier sur les toits ce que l'Esprit te demande de dire. Certes, il faut une confirmation, et le Christ peut nous donner la paix et la joie quand nous souffrons pour lui, comme le rappelle le texte des Actes, où ses apôtres, ils ont reçu des pierres, ils ont dû quitter la ville. Et les Actes des Apôtres nous disent, ils étaient pleins de joie d'avoir pu être reconnus capables de souffrir au nom du Christ. Voir ce schéma qui ne doit pas nous démoraliser, mais qu'au contraire, doit nous entrer dans la confiance. Nous savons en qui nous avons mis notre confiance. que cette confiance nous aide dans le combat quotidien, que cette confiance nous aide à avancer, à nous approcher du Christ, à alléger notre sac à dos d'ado, à entendre ce que l'Esprit met dans nos cœurs. Nous avons reçu l'Esprit par le baptême. Nous avons reçu cet Esprit fortement. Et ici, cité du cœur, je suis venu en 81 avec une retraite nombreuse de prêtres charismatiques pour demander de mieux comprendre le cœur du Christ. Et c'est 2 ans après que j'ai eu une certaine réponse à Lourdes lors d'une messe internationale où, devant la consécration, j'ai cru entendre « Vincent, tu me cherches, ne me cherche pas ailleurs que dans mon corps. Ce corps, ce Saint-Sacrement, il est celui qui permet de voir où est son cœur, un cœur pour aimer, un cœur qui nous appelle à aimer ».